son ensemble pour nous mettre à l'écoute de cette parole qui est vivante, efficace. Je vous invite à prier avec moi avant. Oui, sans ta lumière, que ferions-nous? Cette lumière qui nous éclaire, qui nous fait vivre, qui nous instruit, qui quelquefois nous remet en cause, mais qui nous réconforte, qui nous donne la force. Sois avec nous à présent, dans ce moment d'écoute. Amen. Voilà, j'espère que le micro marche bien, que vous entendez tous. Le passage qui fera l'objet de ma prédication se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2. Et dans ce chapitre 2, je lis les 12 premiers versets. Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par notre chemin. Chaque année, nous célébrons la fête de Noël. C'est l'occasion de porter nos regards sur un événement du passé, la première venue du Christ. C'est un événement du passé qui nous est rapporté. Mais je trouve que les récits qui nous en parlent sont également instructifs pour notre présent. Puisque eh bien, dans notre présent, nous sommes dans l'attente de sa venue. c'est justement ce que la période de l'Avent est destinée à nous rappeler. Alors, je voudrais donc observer la manière dont les personnages de notre récit réagissent à la première venue de Jésus, ce qui pourra nous être utile, nous donner à réfléchir sur notre manière d'être dans notre présent, dans notre temps d'attente. Alors tout de suite, je m'arrête sur le cas du premier de ces personnages, Hérode. En ce temps-là, en Israël, le roi, eh bien, il n'y en a qu'un. Tout le monde le sait. On sait où il réside, dans un palais. Il faut bien que le roi mène un train de vie royal. Hérode a été appelé Hérode le Grand, parce que dans l'histoire, il y en a eu plusieurs et il fallait les distinguer. C'est lui qui a fait restaurer le temple de Jérusalem, celui qu'on voyait du temps de Jésus et qui a fait l'admiration de beaucoup, y compris les disciples. Ce Hérode le Grand avait la passion des constructions grandioses et ostentatoires. Mais aussi, il a d'autres caractères à relever. C'était un monarque autoritaire. Lorsqu'il convoque ses sujets, eh bien, ses sujets viennent. Les professionnels de la religion. Il parlait de tous les grands prêtres et les scribes de Jérusalem qui rassemblent. Il convoque aussi les mages et il les charge d'une mission. Une mission de renseignement. Mais ce n'est pas là son plus grave défaut, parce qu'à l'occasion, il abuse de son pouvoir sans aucune gêne. On le sait, c'est raconté dans l'Évangile. Il a à sa solde des soldats qui, comme on le sait, vont intervenir un peu plus tard pour accomplir les plus basses besognes qui soient. Ceci dit, malgré tout son pouvoir, eh bien, il n'est pas tranquille. Cette naissance inattendue de celui qui, comme le dit la prophétie, va faire paître Israël. Qui plus est, naissance annoncée par des étrangers qui arrivent comme ça, eh bien, ça le tracasse. Le roi Hérode fut troublé, et je crois qu'on peut traduire aussi par agité. C'est en secret qu'il agit lorsqu'il veut en savoir plus en envoyant les mages à Bethléem. Peur du ridicule, peut-être, mais surtout crainte devant quelque chose que pour une fois, il ne maîtrise pas. En fait, c'est de l'Empire romain que Hérode tient son pouvoir. Alors, dans ces conditions, il ne peut que se méfier de tout ce qui était issu de la véritable dynastie de David. Et lui, il n'en fait pas partie. On sait quelle a été sa vie. Il a toujours vécu dans la crainte de se faire dépasser, et à l'époque même de se faire éliminer, parce que son règne a continuellement été menacé par des intrigues du pouvoir, et ce, jusque dans sa propre famille. D'ailleurs, il a fait assassiner une de ses épouses, ainsi que quelques-uns de ses fils, simplement parce qu'il était prêt à tout pour garder son pouvoir. Alors Hérode, un despote cruel, mais dans le même temps un homme tourmenté et qui le restera jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas une manière de l'excuser, mais c'est quand même un personnage tourmenté. Parlons des mages à présent. Est-ce que ce sont des rois comme on l'a prétendu? Le texte n'en dit pas grand-chose. Leurs cadeaux étaient quand même royaux. Ils devaient certainement être très riches, mais c'est probablement la tradition qui a voulu en faire des personnages plus importants encore, des rois. Peut-être pour donner plus de valeur à leur acte d'adoration. Donc, s'ils ne sont pas rois, ils sont quand même riches, et pas seulement du point de vue matériel, parce qu'ils possèdent un savoir, un savoir qui, en Orient, chez eux, était très respecté. Ces mages sont des astrologues, astrologues dont la discipline est liée aux croyances de l'Orient, mais aussi astronomes, puisqu'en ce temps-là, les domaines n'étaient pas séparés. Alors, c'était des savants, dotés d'un prestige auprès de leurs semblables, et par conséquent dotés d'un pouvoir. Un pouvoir auquel ils ont renoncé, puisqu'ils ont quitté leur pays pour quitter leur patrie, arriver à Jérusalem, un pays inconnu, et où ils n'étaient pas connus, obligés de demander où se trouve le nouveau-né. Alors, ils ont bien trouvé la capitale d'Israël, mais ils ne connaissaient pas l'adresse. Adresse d'ailleurs qui n'est même pas à Jérusalem. On imagine peut-être les difficultés pour trouver leur chemin. Certes, on fait toujours remarquer qu'ils ont été guidés par une étoile, mais sans imaginer les recherches ou les réflexions qu'ils ont dû mener pour en arriver là. Avant d'apercevoir à nouveau l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, ils ont quand même dû se renseigner. Autre signe de leur situation inconfortable, ils sont très vite repérés et captés par les services de renseignement du roi Hérode. Leur choix de partir à la recherche du roi des Juifs les met donc dans une situation plutôt inconfortable, loin de chez eux. Mais ce n'est pas l'inquiétude ou la crainte qui les anime. Et c'est bien dit, en apercevant l'étoile, c'est une grande joie. Joie de ne pas s'être trompé. Joie de découvrir qu'ils sont accompagnés, qu'ils ne sont pas abandonnés à leur propre sort. En plus, on le sait, c'est Dieu qui les accompagne. Et même par la suite, même si c'est dans l'obligation de quitter le pays clandestinement, en faisant attention où ils vont, c'est quand même en toute sérénité qu'ils vont repartir chez eux par un autre chemin. Alors, pour résumer, de leur côté, les mages sont venus pour adorer, pour rendre hommage à un roi qui n'est même pas le leur. Et le verbe employé ici, se prosterner, veut dire faire acte d'allégeance, reconnaître la souveraineté. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, à l'inverse d'Hérode. Tout ce que Hérode ne voulait pas faire. Lui, en fait de motivation, n'a pas besoin d'autre chose que ce qu'il a déjà. Son pouvoir, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il défend toujours, c'est ce qu'il veut conserver. Et c'est là que se tient toute la différence entre ce roi de Jérusalem dans sa suffisance et ces étrangers dans leur soif de connaître au prix de recherche, au prix d'un long chemin, au prix de quelques incertitudes même quelquefois. Pour Hérode, l'enfant Jésus est un concurrent. Pour les mages, il est celui qu'ils vont reconnaître comme leur souverain. Eux ont réussi dans leur quête. Ils ont pu se réjouir et repartir comblés d'avoir trouvé. Lui est resté insatisfait et même inquiet puisqu'il a cherché à faire disparaître l'enfant avec une sauvagerie incroyable. C'est dire l'inquiétude, l'agitation qui l'animait. Une sauvagerie à la mesure de son inquiétude. Alors en quoi ce récit peut-il rejoindre nos situations? Nous ne sommes pas des rois, nous ne sommes pas des reines, mais nous avons un certain pouvoir, et peut-être parfois plus que nous ne l'imaginons. Pouvoir lié à notre position d'autorité, quelquefois, celle de ceux qui savent, celle de ceux qui disent savoir aussi, ça peut arriver, celle de ceux qui savent convaincre, celle aussi de ceux qui ont un bon pouvoir d'achat. La liste n'est pas close. Mais il y a aussi ce pouvoir que nous avons tous de faire des choix dans notre vie, de nous déplacer, de rencontrer des gens, de décider des choses, de décider à quoi nous employons notre temps, nos ressources, nos richesses. La mise en évidence de l'attitude de nos personnages est intéressante pour nous montrer justement ce que nous pouvons faire de ce pouvoir qui est le nôtre, dans l'attente de la venue du Christ. Nous pouvons le garder jalousement pour nous et jouir du plaisir de l'exercer à notre profit, en oubliant d'aimer Dieu, en oubliant de reconnaître sa souveraineté, en d'autres mots, en voulant être servi plutôt que de servir, quelquefois quitte au détriment des autres. Au moment de terminer, je remarque que je n'ai pas parlé d'un personnage principal, finalement, le vrai roi. Dans notre récit, bien sûr, il est encore petit pour avoir un rôle, mais l'attitude des mages reflète la sienne dans son incarnation. Je veux parler de l'attitude du Christ telle que nous l'a décrit l'apôtre Paul. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a renoncé de lui-même à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. C'est dans l'épître aux Philippiens. Voilà, même nouveau-né, même enfant, Jésus commençait déjà ce ministère, prendre la condition de serviteur. Eh bien, c'est le choix que les mages ont fait aussi. Leur expédition les a conduits en terrain inconnu, où ils étaient exposés aux manigances d'un roi cruel, machiavélique, mais aussi elle leur a procuré cette grande joie qu'ils éprouvent lorsqu'ils ont vu que malgré tout, ils n'étaient pas seuls sur la route. Qui se sont sentis prêts à refuser l'autorité du roi en ne revenant pas à Jérusalem. eh bien, ils sont pour nous un exemple, royal, on pourrait dire. C'est à la suite du roi qui s'est fait serviteur que cette joie peut nous être donnée. Cette joie et cette confiance. Pour nous, le choix de remettre notre pouvoir entre ses mains, ce n'est pas une recette pour vivre plus tranquille. Ce choix peut occasionner quelques déplacements dans notre vie. Alors, déplacement au sens propre ou au sens figuré. Mais ce choix nous donne le moyen de découvrir que nous ne sommes pas seuls sur cette route. Et même que nos choix de vie, qui nous ont peut-être déplacés, ne sont pas inutiles. Nous servons à quelque chose. Alors, sur notre route, où elle est notre étoile, on n'a pas à la chercher dans les astres, mais justement dans notre manière d'être vis-à-vis de Dieu et de notre prochain, de préférer à notre pouvoir personnel celui du Christ. Sa promesse, eh bien, c'est qu'il reste à nos côtés quoi qu'il arrive. Et on s'en rend compte quelquefois. Alors, ça peut bien être Noël tous les jours. Que le Seigneur nous éclaire. Sans sa lumière, que serions-nous ? Amen. Eh bien, je vais vous proposer justement que nous chantions ce cantique. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous ?